20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Un concert exceptionnel cette semaine à la Philharmonie de Paris. Plus qu'un concert, une immersion en musique et en vidéo dans l'univers de Stravinsky à travers ses trois grands ballets, L'Oiseau de Feu, Petrouchka et Le Sacre du Printemps, interprété par Klaus Mäkelä à la tête de l'Orchestre de Paris et raconté en même temps sur grand écran par trois grands réalisateurs, Rebecca Zlotowski, Bertrand Mandico et Evangelina Cragnotti. Bertrand Mandico, qui nous livre à cette occasion sa lecture de Petrouchka, sera justement à notre micro ce soir pour nous raconter sa démarche. Le temps de notre tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. Le concours Voix des Outre-mer, dont la finale s'est tenue vendredi soir dans l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille, a consacré cette année la jeune mezzo-soprano Winona Berry, candidate représentant Saint-Barthélemy. Le concours, créé par Fabrice Di Falco en 2017, a pour vocation de favoriser l'émergence des chanteurs ultramarins et de leur faire découvrir justement l'art de l'opéra. Le jury, présidé par Richard Marté, réunissait entre autres cette année la mezzo-soprano Karine, l'humoriste Claudia Tagbo ou encore Alexander Neff, le directeur de l'Opéra de Paris. Alain Surance, qui assurait depuis 2018 la direction d'Angers Nantes Opéra, ayant annoncé tout récemment son départ, un processus de recrutement vient d'être mis en ligne pour désigner son successeur. Un jury réalisera ensuite plusieurs présélections avant d'auditionner les candidats au mois de juin. Avec plus de 70 levées de rideaux et près de 60 000 spectateurs par saison, Angers Nantes Opéra est véritablement l'une des grandes institutions lyriques françaises, s'y donne actuellement une pétillante production de la chauve-souris de Johann Strauss. Autre belle maison d'opéra française, le Capitole de Toulouse, où sera présenté à partir de demain et jusqu'au 7 mars l'Idoménée de Mozart, dans la mise en scène de Satoshi Miyagi, créée cet été, l'été dernier, à Aix-en-Provence. Une production très contemplative, faisant se rencontrer la Grèce antique et le Japon moderne. C'est Michele Spotti qui sera dans la fosse, avec sur scène Yann Kosiara en Idoménée, Marie-Père Bost en Ilia ou encore Cyril Dubois en Idamante, des chorégraphies signées Akiko Kitamura et puis la voix enregistrée de Julien Véronèse. Idoménée, dont je vous propose d'écouter ce soir un air chanté par Marina Rebecca sous la direction de Speranza Scapucci. Marina Rebecca et Speranza Scapucci qui ont laissé justement de très beaux souvenirs ces dernières années au Capitole de Toulouse.
Mi sento
Un air d'Électre, extrait d'Idoménée de Mozart, chanté ici par Marina Rebecca, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Liverpool, sous la direction de Speranza Scappucci. Idoménée de Mozart, dans la production mise en scène par Satoshi Miyagi, c'est à partir de demain et jusqu'au 7 mars à l'Opéra National du Capitole de Toulouse.
L'Or Maison, sur Radio Classique.
Ce sont les trois grands ballets de Stravinsky que Klaus Macalet dirigera mercredi et jeudi à la tête de l'Orchestre de Paris, à la Philharmonie de Paris. Deux soirées exceptionnelles associant à la musique déjà si expressive et narrative de Stravinsky, une lecture cinématographique et contemporaine. Trois grands cinéastes ont ainsi été sollicités pour ce projet et ont réalisé des films originaux sur chacun de ces ballets, films projetés en même temps que l'exécution de la musique, un spectacle qui a été créé au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence l'été dernier. Alors parmi ces cinéastes, Bertrand Mandicot, qui a réalisé un film aussi étrange que fascinant sur le thème de Petrouchka. Bertrand Mandicot, que je suis allée rencontrer et qui nous raconte justement sa démarche, sa première expérience dans l'univers du concert classique.
Alors on est venu vers moi, effectivement, pour me proposer de mettre en scène Petrouchka, mais une mise en scène filmée, qui serait projetée pendant que l'orchestre jouerait Petrouchka. Et sur le moment, j'étais ravi de cette proposition, un peu déconcerté. Enfin, je me questionnais, je me disais, tiens, pourquoi Petrouchka et pourquoi pas le Sacre du Printemps, etc. Et puis, en réécoutant Petrouchka, de toute façon, j'adore Stravinsky, mais en tout cas, je trouvais ça formidable. Et en me penchant aussi sur le récit autour de Petrouchka, j'ai vu des possibilités et j'ai accepté. Et je n'ai pas regretté, parce que plus je travaillais sur Petrouchka et plus je me suis mis à aimer Petrouchka, j'ai pu apprécier à quel point c'était quelque chose de riche, complexe et intelligent.
Et c'est une expérience nouvelle pour vous. Alors c'est vrai que vous avez déjà réalisé des clips, mais un film pour un orchestre symphonique, pour le spectacle vivant, c'était quelque chose de complètement nouveau ?
Ah bah oui, c'était complètement nouveau. Alors quand on fait un film, de toute façon pour le cinéma, c'est du spectacle, mais pour les longs métrages, en général, je demande des créations musicales. Il m'arrive de prendre quelques musiques préexistantes. J'avais pris Casse-Noisette comme ça pour les garçons sauvages, mais c'était complètement nouveau, inédit, assez impressionnant aussi par rapport à tout ce qui avait été fait, tous les ballets qu'il y avait eu sur Petrouchka. Et donc je voulais rester dans mon médium en même temps, hein, assumer le fait que j'étais en train de faire du cinéma, jamais me substituer à un chorégraphe, et tout de même être dans une question chorégraphique, mais une question chorégraphique cinématographique, c'est-à-dire que finalement le danseur ou la danseuse du film, c'est la caméra.
Mais en même temps, le ballet, c'est une histoire racontée par des corps en mouvement, et les corps sont très présents dans votre film. Est-ce que vous y avez pensé aussi ?
Ah ben complètement. Je me suis questionné sur le récit de Petrouchka, qui est cette histoire d'un magicien qui a la main mise sur trois marionnettes. Et j'ai décidé de transposer le récit dans le milieu de la mode avec une couturière démoniaque qui a la main mise sur trois mannequins qui sont dans une forme d'addiction. Et j'ai voulu travailler sur le corps contraint, c'est-à-dire sur des vêtements qui donnaient beaucoup de contraintes aux mannequins en question. Et cette contrainte allait créer un mouvement, une chorégraphie dans les défilés. Et c'est ça qui m'intéressait. Et le mouvement de caméra autour des corps en mouvement allait faire office de chorégraphie. C'est-à-dire que c'était le point de vue mouvant qui allait faire office de chorégraphie. Ce point de vue mouvement qui rencontre les corps contraints.
Thank you. Alors, votre lecture, Bertrand Mandico, de Petrouchka, d'Igor Stravinsky, s'éloigne de la version originale, même si on retrouve cette notion de manipulation. Elle est donc transposée dans le milieu de la mode. Il y a aussi le thème de la guerre. On est dans un sous-sol. On imagine un pays en guerre. Cette créatrice de mode est assez terrifiante. Elle est borgne. Comment décririez-vous l'esprit et justement la présence de la guerre? Est-ce que c'est aussi une référence à l'actualité, à la guerre en Ukraine?
Ah ben complètement. Pour moi, c'était impossible de me pencher sur une adaptation des ballets russes en regardant ailleurs, quoi, en étant justement non pas borgne, oui, mais pas borgne, mais aveugle par rapport à ce qui se passe. Donc, ne pas convoquer la guerre et tout ce qui se passe de terrible en Ukraine en me penchant sur Petrouchka, ça me semblait vraiment au-delà du mauvais goût. C'était pas possible de faire ça, quoi. Mais comment le faire sans en trouvant la bonne distance? Ça a été tout ce qui a été la difficulté pour moi, hein, avant d'accepter de mettre en scène Petrouchka. Je voulais continuer à travailler sur l'idée première donc de Petrouchka, qui est ce magicien qui a la main mise sur ces trois marionnettes, donc en transposant ça dans le milieu de la mode, et en même temps il fallait qu'il y ait la guerre au-dessus. Donc on a tourné dans les anciens studios éclairs, complètement détruits, donc ça faisait sens parce que je tourne sur support pellicule, donc il y avait une idée de mise en abîme par rapport à mon support, et donc il y a une ambiance comme ça guerrière de bunker entre guillemets, de souterrain, avec ces gens qui continuent à travailler dans un monde en guerre. Et la guerre, on ne la voit jamais, on la voit à travers des animations, puisque j'ai aussi travaillé sur l'idée du cinéma d'animation pour les parties guerrières, avec des animateurs qu'on voit en train de travailler sur ces films-là. Donc c'est la seule fenêtre que j'ouvre sur ce monde en guerre. Et donc il y a cette tension qui est présente dans le film, oui.
Et puis on retrouve les trois personnages de Petrouchka, mais que vous avez changé. Petrouchka, c'est une jeune fille malade, droguée. Autour d'elle, deux personnages non genrés. Qu'est-ce qu'ils représentent, ces trois personnages, pour vous?
Ce sont un peu des archétypes de mannequins, tels qu'on peut les voir dans les magazines de mode. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était casser les genres, hein, par rapport au récit originel, et puis casser quelque chose qui était un petit peu manichéen, hein, je trouvais dans le Petrouchka originel, c'est-à-dire qu'il y avait le mort qui était le méchant, celui qui était le donc la marionnette, la mieux lotie. Et pour moi, les trois mannequins, même s'il y a un jeu cruel entre eux d'amour triangulaire, finalement ils sont sous la mainmise d'une couturière et d'un système, et c'était important pour moi qu'on puisse confondre les deux autres mannequins qui sont autour de Petrouchka, puisqu'ils ont le crâne rasé tous les deux, ils sont, on pourrait dire, non-genrés. Il y a Bal, qui est l'équivalent de la ballerine, jouée par Yu Ming, et puis il y a l'équivalent du mort, qui est joué par Yekaterina. Voilà. Donc, et alors, la mannequin que j'ai choisi pour jouer anciennement le mort, Ekaterina, est une vraie mannequin dans la vie russe, et qui est la porte-parole des mannequins abusés. Voilà, elle c'est celle qui s'occupe de cette association-là. Donc il y a quand même plein de d'éléments très politiques dans ce que j'ai fait par rapport aux abus en tout genre, puisque l'histoire de Petrouchka est une histoire d'abus de pouvoir. Comme tous les abus, c'est toujours des abus de pouvoir.
Et puis il y a ce double écran, on voit la scène filmée de deux angles différents, avec des fois un décalage. Pourquoi ce choix du double écran?
Ben parce que je ne fais pas un film de cinéma, mais un film de spectacle. Donc je me suis questionné là-dessus aussi. Comment trouver une réponse cinématographique au spectacle vivant? Enfin, être dans cette hybridation, disons. Et donc je me suis dit que ce qui était intéressant, c'est de travailler sur le double écran, sur le split screen, mais ne pas être dans un double écran qui... Parce qu'habituellement, quand on utilise le double écran au cinéma, c'est pour fractionner une action et aller montrer deux points de vue, une main qui est en train de je sais pas, de dévisser un truc pendant qu'il se passe autre chose. Enfin, c'est pour créer, un suspense. C'est très De Palma comme processus. Là, c'est une utilisation opposée à ça, puisque je montre la même action avec des longs mouvements de caméra, mais je désynchronise ces mouvements de caméra, c'est deux prises différentes, et il y a pu y avoir un mouvement qui part de la droite vers la gauche, et un autre de la gauche vers la droite. Donc il y a cette idée chorégraphique. Et aussi, il y avait l'idée de pouvoir créer une synchronisation avec la musique, une désynchronisation permanente. Je voulais pas être dans quelque chose que je trouvais un peu vulgaire, qui est le film qui colle à la musique comme un chewing-gum sous le soulier de quelqu'un. Donc il fallait que je joue en permanence sur la synchronisation et la désynchronisation. Et également la divergence des points de vue. C'est vraiment un film qui joue sur ça. Donc voilà, j'ai poussé cette expérimentation à son paroxysme et c'est quelque chose que j'ai tenu jusqu'au bout dans le film et c'est ce qui fait aussi l'originalité du dispositif.
Alors, votre film, Bertrand Mandicot, il a donc été pensé pour la musique de Stravinsky. Il sera reprojeté à la Philharmonie de Paris, tandis que l'Orchestre de Paris jouera Petrouchka sous la direction de Klaus Mäkelä. Comment l'avez-vous travaillé dans cette idée de synchronisation et de désynchronisation? Est-ce que vous avez travaillé avec un enregistrement, puisqu'il y a tout de même un minutage à respecter, sachant qu'en plus on est dans le spectacle vivant, donc le minutage n'est jamais totalement le même. Et est-ce que vous en avez discuté aussi avec le chef d'orchestre Klaus Mäkelä?
Oui, parce que au départ, le principe, c'était que les cinéastes proposent des films avec des poignées, c'est-à-dire avec des joints de dilatation, qui aient des rendez-vous avec l'orchestre pour certaines séquences, et qu'on puisse lancer les séquences comme ça, en fonction du comme il y a des variations d'une interprétation à une autre, en fonction des variations. Donc c'est ce qu'ont fait mes deux collègues, et c'est ce que finalement moi j'ai renoncé à faire. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur un enregistrement de Petrouchka que Klaus Mäkelä avait fait avec un autre orchestre, et je me suis basé sur cet enregistrement, et j'ai fait mon montage comme ça, avec cette idée de synchronisation et désynchronisation, et en me disant de toute façon, parce que j'avais testé sur plein de passages de Petrouchka, comme c'est quand même Petrouchka, il faut dire, c'est un ballet où il y a des ruptures, c'est d'une richesse incroyable, il y a des événements tout le temps. Donc si on commence à illustrer tous les événements, c'est un enfer. Donc il faut créer des rendez-vous et jouer comme ça sur la désynchronisation et synchronisation. Pour moi, c'est plutôt la traduction juste, hein, cinématographiquement, par rapport à cette pièce-là. Et donc, à un moment donné, c'est quelque chose qui a un peu fait froid dans le dos au responsable d'Aix-en-Provence, je leur ai dit, moi, je vais vous livrer un film fini, avec un minutage. Je ne vais pas dire que c'est au chef de faire son boulot, mais arrivera ce qui arrivera. C'est-à-dire qu'il peut finir avant, un peu après. J'assume complètement ça. Ça fait partie du dispositif, ça fait partie de mon choix et de mon parti pris. Klaus Makela a compris complètement le truc. Il a beaucoup aimé le film, ma traduction de Petrouchka. Et il m'a dit, ne t'en fais pas, je vais y arriver, je vais jouer le jeu, ça m'intéresse. Et puis voilà, il y aura forcément des flottements. Il s'est vraiment évertué à jouer le jeu. Parce que le film s'y prêtait. Parce que c'était le film qui avait ce dispositif-là. Donc voilà. Et ça s'est très bien passé entre nous.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti, Bertrand Mandicot, quand vous avez vu votre film sur grand écran lorsqu'il a été créé à Aix avec l'Orchestre de Paris et Klaus Makela?
Ah, mais j'étais hyper impressionné. C'est-à-dire que bien sûr, quand il y a une avant-première d'un long métrage dans un festival, un grand festival, on est impressionné. Mais c'est pas de la même nature. Là, vraiment, j'étais comme un petit garçon, quoi, ou une petite fille dans mes petits souliers. Donc c'était très très impressionnant et en même temps, je retenais mon souffle parce que je savais qu'il y avait cette idée de pouvoir retomber sur nos pattes à la fin. Et là, je m'en remettais à Klaus Makela. Je voyais qu'il avait un œil sur l'écran. Même pour mon cœur, c'était un peu trop fort, quoi. J'avais jamais ressenti ça à ce point-là. Donc c'était très, très impressionnant, ouais.
Et c'était un film compliqué à monter. Vous l'avez réalisé en très peu de temps avec des moyens assez limités.
Mais disons qu'on a eu toutes et tous les mêmes moyens. Qui sont ceux d'un spectacle vivant. Et alors quand on rentre dans une fabrication de films, ça devient un peu plus compliqué. Donc on avait le choix aussi, hein, d'aller chercher dans des rushs de films qu'on avait déjà tournés pour pouvoir les agencer. Et là, on était dans des préoccupations de montage et plus de fabrication et de tournage. Mais moi, j'ai quand même voulu prendre le risque, avec une équipe qui m'a suivi, hein, parce que sinon, je n'aurais pas pu le faire, de tourner un vrai film conçu de A à Z, avec des actrices et des acteurs. Hein. On parlait de la couturière Borne, qui est jouée par Nathalie Richard, qui est absolument incroyable, des artistes de cabaret comme David Noir, l'actrice Elina Levenson, Christophe Bier, enfin Clara Benador qui fait Petrouchka, enfin il y a plein de gens formidables autour de moi, et donc de créer ce monde à part entière, le stylisme du monde, les décors, créer les animations, enfin tout ça, ça a été un gros travail, et la contrepartie, c'était le temps. Donc j'ai eu 5 jours, vous voyez, c'est ce qu'il m'aurait fallu, 5 semaines, mais j'ai eu 5 jours. J'ai eu 5 jours pour tourner ce film en double écran sur support pellicule, hein, puisque c'est mon support de prédilection, et donc c'est ce qu'on a réussi à le faire, voilà, en cinq jours, ce Petrouchka.
Est-ce que cela vous donne envie de réaliser d'autres projets liés à la musique? On voit apparaître des spectacles assez originaux qui sont confiés parfois à des artistes venus d'autres univers, notamment du cinéma. Est-ce que vous auriez envie, vous aussi, de continuer cette exploration de la musique?
Ah bah oui, particulièrement. Moi, j'ai adoré cette expérience et j'aime bien ce travail de contrebande de cinéma, c'est-à-dire faire du non-cinéma ou du cinéma peut-être clandestin dans un contexte comme ça de spectacle vivant, travailler avec des musiques préexistantes et des grands opéras. Oui, ça me passionne de plus en plus, et parce que je vois aussi les limites du cinéma, puisqu'on est dans une période charnière par rapport au cinéma, et ça m'intéresse beaucoup de travailler, de continuer à travailler dans ce monde du spectacle vivant.
Et en dehors de Stravinsky, quel serait le compositeur ou les univers musicaux qui pourraient vous intéresser pour ce type de projet ?
Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'intéressaient. Ça serait difficile pour moi de faire des listes comme ça. Donc je suis ouvert à la fois aux très contemporains et à des choses beaucoup plus anciennes, quoi. Voilà, comme ça, je ne me prononce pas, je reste très, très, très ouvert. Voilà.
Merci beaucoup, Bertrand Mandicot.
Merci beaucoup.
Un nouvel extrait de Petrouchka de Stravinsky dans le tout nouvel enregistrement de Klaus Mäkelä avec l'Orchestre de Paris, un enregistrement qui sortira le 8 mars chez Decca. Klaus Mäkelä dirigera donc Petrouchka mais aussi L'Oiseau de Feu et Le Sacre du Printemps mercredi et jeudi soir à la Philharmonie de Paris. Trois ballets racontés en même temps sur grand écran à travers des films signés Bertrand Mandico mais aussi Rebecca Zlotowski et Evangelia Craniotti. Voilà, c'est la fin de ce Journal du Classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du pianiste Benjamin Grosvenor. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.